Le retour du virus le plus puissant et terrifiant que jamais, voici Erectus, l'armée de Darwin, pour nous en parler. Je suis avec son auteur, le romancier journaliste Xavier Muller. Bonjour Xavier, merci d'être sur Millennium.
Bonjour.
Alors votre premier roman, Erectus, est un best-seller avec 75 000 exemplaires vendus. Est-ce que vous attendiez un tel succès ?
Non, évidemment que non. Quand on écrit un livre, on essaie d'emporter le lecteur dans son univers. Et quand on crée des univers qu'on essaye de rendre originaux, on est toujours sur une ligne de crête où, il faut le dire, on frôle le ridicule. Et le virus Kruger, le virus de mon livre, c'est un virus qui fait régresser les espèces, qui fait régresser les hommes en être préhistorique, en homo erectus.
Ouais.
Donc on est toujours sur une ligne de crête où on se dit, où on est angoissé à l'idée que les gens trouvent, repoussent, n'entrent pas dans notre univers et repoussent nos idées.
Ouais.
Donc quand en fait ils ont adoré, quand ils ont adhéré à notre proposition de voyage, notre première action, c'est la surprise. C'est la surprise. Donc là, on est vraiment enchanté par le succès du livre et puis j'espère par le succès du tome 2.
Et puis, il y aura plusieurs traductions, je crois.
Oui, alors le tome 1, il a été traduit dans 6 ou 7 langues,
ouais.
Des langues plutôt auxquelles je ne m'attendais pas du tout, parce que assez lointaines et assez peut-être différentes de notre imaginaire européen, le Japon par exemple. La Russie aussi, l'Espagne, la Pologne, etc.
Alors dans votre premier roman, on avait laissé les Erectus dans une réserve africaine, on croyait qu'ils étaient stériles, et pourtant non, on va retrouver la chercheuse française Anna Meunier 7 ans après.
Oui, c'est ça, le premier tome était vraiment une histoire autonome, une histoire indépendante, mais à la fin du roman, j'ouvrais une petite fenêtre. Le bouquin se terminait par un coup de tonnerre, par le cri d'un nouveau-né qui déchirait l'air dans les réserves où on a parqué les Erectus, qui sont nos versions agressives. Et donc, sous-entendu, les Erectus sont féconds, peuvent se reproduire alors qu'on les pensait stériles. Le deuxième tome, celui qui sort aujourd'hui, et encore une fois une nouvelle histoire indépendante, mais voilà, part sur ces bases-là. Donc l'histoire se déroule 7 ans après, et alors qu'on croyait les Erectus stériles, on est bien obligé d'admettre qu'ils sont féconds, et donc c'est une nouvelle épée de Damoclès qui plane au-dessus de la population humaine, parce qu'on pensait bêtement que les Erectus, voilà, on allait les installer dans les réserves, un petit peu comme dans des zoos, et puis qu'ils allaient mourir de leur propre mort, donc finalement que la menace qu'ils incarnaient allait s'éteindre de privés d'oxygène quelque part. Et donc le deuxième tome commence dans cette ambiance là mais Anna Meunier, qui est mon personnage principal, qui est une paléontologue, une jeune femme aventureuse et un petit peu solitaire, qui était l'héroïne du premier, dans ce début d'histoire, elle dirige un centre d'études des préhistoriques, parce que bon, voilà, on veut profiter pour faire de la préhistoire vivante, presque. Les Erectus qui vivent dans les réserves représentent une opportunité unique de se plonger dans la préhistoire. Et donc, elle découvre que des corps assassinés sauvagement d'Erectus dans les réserves. Le sang vient de couler, et pour elle, il s'agit de simulacres. En fait, ces assassinats ont été mis en scène, et pour elle, quelqu'un s'essaye de s'approprier les compétences facultatives extraordinaires des Erectus qu'ils ont développées dans les réserves. Alors, qui et pourquoi, c'est tout l'enjeu de ce tome-là.
Alors, justement, votre roman, c'est une fiction. Est-ce que ça pourrait être vrai ? Qu'est-ce que dit la science aujourd'hui à ce sujet ? On le voit aujourd'hui qu'une pandémie est possible au niveau mondial avec la Covid.
Oui, alors moi j'ai écrit le premier tome et puis j'ai commencé le deuxième tome avant la pandémie.
Ouais.
Donc c'est pour moi en tant qu'auteur une espèce de coïncidence un peu troublante. D'ailleurs, je pensais au début de la pandémie, j'ai pensé très égoïstement que en fait, il s'avère que les le livre de poche, la version poche, est sorti juste en début d'année 2020.
Ouais.
Donc, à l'amorce de la vague pandémique en, en Europe de l'Ouest. Et donc, très égoïstement et spontanément, je me suis dit, bon, bah, c'est la mort des ventes de ce, de ce tome en version poche, quoi. Enfin, de cette version poche.
Ouais.
Les gens vont pas aller se faire peur dans les livres alors que l'angoisse les attend sur le palier de leur immeuble ou dans un supermarché. Et bizarrement, non. Bizarrement, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Les journaux ont commencé à dresser des listes de livres, entre guillemets, prophétiques, qui avaient annoncé la pandémie. Et Erectus figurait en bonne test, en bonne place parmi ces listes. C'est un peu comme si notre champ de vision mentale à tous était un peu rétréci, comme si on voulait manger de la pandémie à toutes les sauces. Donc ça, c'est pour l'aspect pandémie, mais il y a un autre aspect dans lequel je me suis le plus intéressé pour ce deuxième tome, c'était les compétences que possédaient nos ancêtres.
Ouais.
J'imagine dans le tome que l'évolution n'a peut-être pas seulement été généreuse avec nous au cours des derniers millions d'années, mais peut-être qu'elle nous a privés de facultés que nous avions perdues. Alors c'est peut-être une idée un petit peu fantasque, mais en fait la science étaye cette idée-là. Par exemple, il y a notre odorat. Par exemple, nous savons que notre odorat était certainement plus fort, plus puissant qu'il n'est aujourd'hui. Les gens, les primatologues qui étudient les singes, sont témoins d'observations assez étranges. Parfois, ils se disent, tiens, les singes communiquent peut-être par télépathie. Et peut-être que nos ancêtres possédaient ce sens-là. Mais une chose qui m'a vraiment étonné, c'est des expériences, de véritables expériences, qui ont été menées à l'Institut de Californie de Technologie, il y a seulement 2 ans, où on a placé des sujets humains dans un champ magnétique, qu'on a fait tourner et à l'aveugle, les sujets ignoraient totalement l'absence de champ magnétique et les cobayes humains ont été capables de se repérer et d'avoir un vague sens de l'orientation un peu malheureux, si je puis dire. Et l'un des auteurs de la publication scientifique a même écrit, terminé son article en disant voilà, il se pourrait que nous ayons eu à un moment donné dans notre histoire une espèce de GPS magnétique et que nous ayons perdu parce que ce sens ne serait plus utilisé aujourd'hui. Donc voilà, donc ce genre de constat, ce genre d'hypothèse, c'est vraiment du pain béni pour un romancier.
Ouais.
Et c'est cette idée que j'ai travaillée dans le tome 2. Et si nos ancêtres avaient été plus doués que nous sur certains aspects?
Justement, sur les aspects, je pense, de l'écologie et l'avenir de la planète qui ont une place importante, hein, dans votre roman. Est-ce que les Erectus étaient écologistes? Est-ce un sujet qui vous préoccupe?
Oui, c'est un sujet qui me préoccupe, je crois, un peu comme toute la planète aujourd'hui, en tout cas tous les habitants des pays industrialisés, des pays riches, qui portent une part de responsabilité dans tous les maux qui frappent la planète. Il s'avère que j'ai écrit un livre sur les oiseaux migrateurs aussi. Et depuis quelques années, on parle beaucoup de souvenirs d'enfance où les gens qui partaient en vacances dans leur voiture finissaient le voyage avec le pare-brise constellé d'une nuée d'insectes. Et si vous vous intéressez aux oiseaux, vous vous rendez compte que le même genre de phénomène se produit. Il y a dans les Pyrénées un col qui est bien connu pour être un corridor migratoire des oiseaux migrateurs qui remontent de l'Afrique ou qui descendent. Et là-bas, si vous postez là-bas, vous verrez très peu d'oiseaux traverser, par exemple de pigeons migrateurs. Et leur nombre a chuté d'un facteur 10, quoi, en l'espace de 30 ans. Et c'est une constatation affreuse et qui concerne, hélas, toutes les espèces dans des ordres de grandeur différents, mais le constat est le même dans toutes les espèces d'oiseaux, migratrices ou non, d'ailleurs. Donc, c'est une préoccupation, disons, qui a irrigué l'écriture de ce deuxième tome.
Ouais.
Le méchant de l'histoire, un biologiste qui s'appelle Owen Furth, qui a une conscience écologique très, très développée, s'est servi du virus Kruger qui fait régresser les espèces comme arme. Et il va l'utiliser pour nourrir sa cause. Et puis il va se poser la question, et si l'on rebattait les cartes de l'évolution humaine? Et en utilisant le virus comme une arme, il va être capable de redonner, de remonter le temps finalement, et de redonner à la Terre son visage d'antan, à une époque où l'homme n'avait pas encore conquis la Terre entière, et puis façonner le monde à son image, et n'en avait pas fait un écosystème favorable pour son développement. Donc, le roman n'est pas un plaidoyer écologique, hein, ça reste un roman d'aventure, ça reste où on va aux quatre coins de la planète, mais je me suis beaucoup amusé, voilà, à redonner vie à une terre perdue presque, à une terre couverte de forêts primaires, en même temps que je me suis toujours amusé, comme dans le premier tome, à redonner vie à des espèces animales disparues, en même temps que l'humanité essaye de lutter contre la pandémie et qu'Anne essaye de sauver son amant transformé en Erectus.
Alors, dans votre roman, il y a des scènes de bataille, notamment en Afrique. On avait parlé la première fois que vous étiez venu dans les studios, Xavier. Pourquoi pas faire un film? Est-ce que vous avez été approché par des producteurs pour faire un film?
Alors, il y a quelques producteurs qui ont demandé les épreuves de ce deuxième tome.
Ouais.
J'ai une écriture, je crois, assez visuelle, et je pense que cette écriture se prête bien au sujet. Donc effectivement, quand on lit le bouquin, j'espère qu'on voit un film se dérouler un petit peu dans sa tête. Donc il y a effectivement des producteurs qui se sont montrés intéressés. Après ça reste, si jamais un film se fait, ça sera forcément une grande production, ça sera forcément un film cher. Donc évidemment l'intérêt, ça exige que l'intérêt de producteur soit vraiment bien ancré et solide, parce qu'il faut recréer tout un monde perdu. Ouais. Il faut un monde, une faune, une flore. Il faut les Erectus sont encore plus nombreux que dans le tome 1. Ils vivent dans des réserves. Ils sont, comme vous le disiez, ils s'arment et ils partent sur le chemin de la guerre. Donc ça donne naissance à des scènes très épiques et très spectaculaires. Où on voit des Erectus qui chevauchent des effronts adriatiques. Bon, vraiment faire quelque chose de grand spectacle, quoi.
Ouais, on serait dans du genre du Jurassic Park, du Game of Thrones, du Star Wars, des choses comme ça, vous voulez?
Ouais, choses comme ça. Alors, je sais pas si ça donnera quelque chose d'aussi ambitieux que ça, mais sur le papier, voilà, c'est le genre d'ambiance, c'est le genre de décor épique, quoi, spectaculaire que je recherche dans mes bouquins. Enfin, en tout cas, là, que j'avais envie, quoi. Mais tout en gardant l'intimité des relations humaines et peut-être encore plus que dans le bouquin, ce qui est important dans ce deuxième tome, c'est la relation d'Anna avec ses proches et notamment avec sa fille, parce que entre ces 7 années qui sont écoulées, Anna, mon héroïne, a donné naissance à une fille qui s'appelle Alice et qui s'avère être la fille de l'ancien compagnon d'Anna, qui est devenu préhistorique entre temps. Donc Alice est une espèce de l'enfant de Roméo et Juliette, quoi. Un peu un pont entre ces deux mondes. Et par ailleurs, là, il y a un suspense au début du roman sur l'hypothèse, la possibilité qu'elle ait développé des compétences des Erectus. Et tout ça fait un trio intéressant à explorer et sur lequel le deuxième tome repose un petit peu.
Et puis en lisant ce livre, on l'a dit tout à l'heure, hein, on fait un lien forcément avec le virus de la Covid-19. Il y a les polémiques scientifiques, les complots, les réseaux sociaux qui se déchaînent. Et notamment hein, quand on lit d'ailleurs la déclaration dans votre livre de l'OMS, hein, tous les déplacements doivent être désormais limités au strict nécessaire en cas d'urgence, porter des vêtements couvrants, gants et masques. C'est dur de faire abstraction du contexte sanitaire alors que vous avez écrit votre roman bien avant cette crise.
Oui, oui, oui. Alors, en fait, en écrivant le tome 2, je l'ai réalisé après coup, mais je me suis cogné aux mêmes questions qu'on se pose depuis plusieurs mois. C'est-à-dire, d'où est vraiment venu le virus? Est-ce qu'on peut faire confiance aux hommes politiques et aux médecins pour combattre la pandémie? Comment faire pour éviter une troisième vague? Vraiment, c'était des questions que j'ai trouvées sur mon chemin et qui se révélaient assez troublantes pour moi à posteriori. Bon, j'imagine que c'est des espèces d'invariants des épidémies hein, qui étaient déjà là sous la peste noire au XIVe siècle, quand la peste noire moissonnait les âmes.
Ouais.
Mon travail de romancier, c'était essayer de trouver des réponses à ces questions. Dans la vraie vie, souvent on se heurte plus à des questions, à des points d'interrogation et on est rarement satisfait, on obtient rarement les réponses qu'on souhaite. Alors moi j'ai essayé d'obtenir d'échafauder des réponses, c'est-à-dire par exemple comment éviter une troisième vague, comment éviter une nouvelle épidémie. Il est clair que d'ici 6 mois, 1 an, quand la pandémie sera un peu derrière nous, quand les cendres auront refroidi un petit peu, qu'on va se poser ces questions-là et qu'on va chercher des réponses, évidemment dans l'organisation de la société, des achats de masques, enfin des stocks qu'on fera, etc. Mais il y aura aussi d'autres solutions plus techniques, plus scientifiques à imaginer. Alors moi, j'en propose une dans le bouquin. J'imagine que au cours des 7 ans qui s'est déroulé en tome 1 et tome 2, que l'OMS a mis au point une espèce de surveillance générale sanitaire. À chaque fois que vous passez dans le portillon de sécurité d'un aéroport ou d'un métro, votre sœur est scannée à la recherche de bactéries, de virus. Comme ça, l'OMS dispose d'une espèce de vigie en direct de regard sur l'état sanitaire de toute la population. Donc voilà ma suggestion. C'est un projet qui est à la fois inquiétant, évidemment, parce que ça va dans le sens d'une surveillance généralisée, mais c'est aussi rassurant de savoir qu'on a des médecins partout.
Ouais.
Partout. Moi, j'imagine qu'un jour ou l'autre, on viendra à ce genre de solution, quoi, en tout cas.
Dernière question, Xavier. Est-ce qu'il y aura une suite à Aeretus? Est-ce que ça va être une trilogie? Est-ce que vous avez déjà les idées?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce deuxième tome est une histoire autonome, mais et qu'on peut lire d'ailleurs sans avoir lu le premier tome, hein, parce qu'il y a un petit rappel des choses au début. Alors, est-ce qu'il y aura un troisième tome? J'espère. Ce tome se finit à nouveau par un petit rebondissement, par un petit retournement de situation qui ouvre vers une nouvelle histoire. Bon, évidemment, les éditeurs sont des gens très pragmatiques, hein, donc ils se lancent dans une nouvelle aventure éditoriale seulement si la précédente a été un succès.
Mais oui.
Donc on attend de voir si le deuxième tome se rencontre son public et puis plaît aux gens. Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire un troisième tome. Si vous regardez sur mon ordinateur, il y a un dossier tome 3, Erectus tome 3, où j'ai déjà acheté quelques idées. Bon, s'il y a un troisième tome, ça sera évidemment la fin d'une trilogie. Il y a quelque chose de très naturel à faire des trilogies. N'importe quelle histoire se divise en un début, un milieu, une fin. Donc, même à l'échelle d'une saga, on est enclin à faire une histoire qui se découpe en 3 tomes. Et si jamais il y a un 3 tomes, ce sera évidemment le pinacle de l'opposition entre Homer et Tuss. Et puis aussi de la relation entre Anna et puis son chéri régressif, Yann.
Et puis, on espère un film, bien entendu.
Ouais, on espère un film.
Merci beaucoup, Xavier Muller, d'avoir été sur Millennium. À très bientôt.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.